Dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire. Oui dire.
Oui dire. Sur Radio Campus 93.3.
Oui dire.
Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Alors, en l'absence de Fred Lanor qui est parti au CMLO, c'est moi ce soir qui ai la lourde charge donc de présenter l'édito. Donc, la première partie, notre invité ce soir est Jean-Claude Marval. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Jean-Marc, je commence bien.
Non, mais c'est bien aussi.
Ce sera notre invité de ce soir. Et puis, il y aura bien sûr un conte, il y aura des pauses musicales. Et des actus par Fred. Bonsoir Fred.
Bonsoir Monique, bonsoir tout le monde.
Et bien sûr, des devinettes avec Pierre, Petit Pierre. Bonsoir Petit Pierre.
Bonsoir.
Voilà, donc beaucoup de choses qui se passent dans notre région, dont on va parler un petit peu tout au long de cette émission, qui est l'avant-dernière, puisque la prochaine aura lieu en juillet. D'ailleurs, tous les gens qui sont intéressés pour venir compter en direct seront les bienvenus, compteurs et compteuses, amateurs et professionnels. D'ailleurs, en parlant d'amateurs, ce soir, c'est une émission uniquement avec des amateurs, puisque la seule professionnelle, Fred, a dû rejoindre...
Et Christine.
Pour Fred, elle a dû rejoindre le CMLO. Et Christine, eh ben, elle est certainement en formation aussi. Bonsoir à toutes les deux. Préparez vos oreilles à entendre de belles choses, de jolis contes grâce à Jean-Marc et plein de belles choses.
Alors, on commence par une petite histoire avant de te...
On commence par une petite histoire,
poser
là, tout de suite.
Poser plein de questions.
Moi, si vous voulez. Je voulais juste vous... Parce que quand je suis venu, je me suis demandé ce que j'allais vous raconter, de vrai ou de faux. Et puis, je me suis souvenu que dans mon village, enfin, moi, je suis de Vichy, mais dans le village à côté, il y avait deux vieux. Deux vieux bien connus, hein, chez nous, en fait, quand on leur raconte cette histoire, personne ne sait que c'est un conte. C'est deux vieux qui s'entendaient toujours bien. Il faut dire aussi que le Jean et la Louise... Ils s'entendaient bien parce que chaque fois que Louise voulait quelque chose, Jean, il le faisait de suite. Bon, ça donne à réfléchir quand même. Et en même temps, chaque fois que Jean faisait quelque chose, Louise, elle trouvait que c'était bien. Et alors, ça se passait bien pour eux. Et un jour, la Louise, elle a juste sorti la petite boîte en fer blanc, celle qui était dans l'armoire de la chambre. Et puis, elle s'est assise au bord du lit et elle a ouvert la boîte en fer blanc. Tiens, elle était presque vide. Alors, elle a compté les quelques pièces qu'il y avait. Et elle a appelé Jean. Elle a dit, Jean, l'hiver approche, on n'a plus grand-chose à manger. Eh bien, tu sais, Jean, tant pis, on n'a que deux vaches, mais tu vas aller en vendre une à la foire. Et c'est comme ça que le Jean, le lendemain matin, il était là, sur le chemin, à pousser sa vache avec son bâton. Et le soir, quand il est rentré, la Louise a dit, alors Jean, cette vache, te l'as-tu bien vendue? Et Jean, il a dit que non. Non, pourtant, il est resté là toute la journée à la foire. Hein. Et puis, il n'avait pas bougé. Hein. Et il y en avait plusieurs qui étaient venus voir sa vache. Il la trouvait bonne et belle. Mais personne n'avait acheté. Alors, il allait rentrer. Et bien, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu lui proposer de lui échanger sa vache. Si, contre un âne. Et bien, Jean, il ne sait pas pourquoi. Ben, il a accepté. Et alors, la Louise a dit, « T'as bien fait, mon Jean. T'as bien fait parce que l'âne, on va l'atteler à notre charrette. » Et puis le dimanche, eh ben, au lieu d'aller à la messe à pied, on ira en charrette tirée par notre âne. Eh bien ça, tu vois, Jean, ça me fait plaisir. Et Jean, il dit que c'est pas tout. C'est pas tout parce que l'âne, il le tenait par la bride. Et là, cette fois, il était décidé à sortir. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu lui proposer de lui échanger son âne. Si, contre un cochon. Mais un beau cochon. Alors Jean, il n'a pas pu résister, il a accepté. La Louise. Mais t'as bien fait, mon Jean. Le cochon, on va le tuer. La viande, on va la mettre au saloir. Et les jambons, on les fera sécher. Et puis, avec le sang, on fera du boudin. Et puis, pour manger le boudin, on va inviter les voisins. Et puis, on fera une grande fête. Ça, tu vois, Jean. Oh, ça me fait plaisir. Mais Jean, il dit que c'est pas tout. Non, parce que l'âne, il le tenait par la bride. Et bien, le cochon, après, il le tenait par l'oreille. Et alors, quand il a voulu le faire avancer, là, pour quitter la foire, le cochon, d'un coup de tête, il s'est échappé. Il est parti s'enfouir comme ça, sans... au milieu des volailles. Oh là 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 là, Jean, il était embêté, il a couru derrière. Et bien, c'est comme ça qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a proposé de lui échanger ce cochon contre une oie. Et bien, on ne sait pas pourquoi, mais Jean, il a accepté. Et alors, la Louise a dit, t'as bien fait, mon Jean. Parce que l'oie, elle va nous donner son duvet, et je le mettrai dans les dredons, on aura bien chaud cet hiver. Et puis tiens, on va la manger pour Noël. On évitera ton père, ta mère, les enfants, et mes parents aussi. Et ben on passera un bon Noël. Et ben ça, tu vois, ça me fait plaisir. Et Jean dit que c'est pas tout. L'oie, elle était devant lui, et elle était sur la sortie, et lui, il la poussait avec son bâton, même qu'il s'amusait à marcher comme elle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui est venu la voir pour lui dire, Jean, je vais t'échanger ton oie contre un coq. Mais Jean, il a accepté. Et la Louise, elle était contente parce qu'elle a dit, Jean, le coq, je vais le mettre dans la basse-cour et puis il va surveiller nos poules. Et puis, tiens, je prendrai sa plus belle plume et puis je la mettrai à ton chapeau. Ah, comme tu seras beau. Mais Jean, il dit que c'est pas tout. C'est pas tout parce que le coq, il le tenait sous son bras. Il allait sortir de la foire, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu lui proposer de lui acheter son coq. Ben pour une fois qu'il vendait quelque chose dans cette foire, il l'avait quand même pas refusé. 3 sous qu'il lui en a proposé, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. La Louise, t'as bien fait, mon Jean. Parce que les 3 sous, je vais les mettre dans la boîte en fer blanc. Ce sera toujours en ça pour l'hiver. Jean, il dit que c'est pas tout. Non, parce que les 3 sous, il les a mis dans la poche. Et puis là, il est rentré sur le chemin pour rentrer chez lui. Parce que depuis le matin, il avait marché jusqu'à la foire, et il avait traîné toute la journée, et vas-y, marche sur le retour, et marche, et marche, et marche, arrivé au village. Il était tellement fatigué. Il a voulu s'arrêter à l'auberge pour se fatiguer un petit peu, quoi. Et il a commandé une chopine. Oh, 1 sou la chopine, c'est pas bien cher. Et puis il a bu sa chopine en racontant son histoire à l'aubergiste. Mais bon, parler, ça donne soif. Alors il a voulu remettre ça. Mais bon, boire tout seul, ça se fait pas. Alors chacun sa chopine, l'aubergiste et lui. Et quand la chopine a été bue, à la santé de cette bonne journée, bah, il a payé. Hein. 3 chopines, 3 sous, il n'avait plus rien. La Louise, t'as bien fait, mon Jean. T'as bien fait parce que t'étais fatigué, maintenant tu rentres en pleine forme à la maison. Mais rien que ça, tu vois, ça me fait plaisir. Mais Jean dit que c'est pas tout. Non, parce qu'il allait sortir de l'auberge. À ce moment-là, il y a l'aubergiste qui lui dit, bah, dis donc Jean, tu vas passer une sacrée soirée. Hein. La Louise, elle va pas être contente. Bah, Jean, il dit non. La Louise, elle est toujours contente. Comment ça, Jean ? La Louise, elle est toujours contente. Bah, t'étais parti vendre une vache, je te rappelle. T'étais parti vendre une vache, tu l'as vendue, on ne sait pas trop comment. En tout cas, tu rentres sans la vache, sans les sous. Si la Louise, elle dit rien, moi, tiens, je te parie, la Louise, elle dit rien. Tout l'argent de ma caisse, hein, toute la caisse, toute la recette de la journée, c'est pour toi, Jean. Mais moi, je veux venir voir. Et Jean, il dit à Louise que c'est pour ça qu'il est là, l'aubergiste, avec lui. La Louise, t'as bien fait, mon Jean. Et puis toi, l'aubergiste, tu vas me donner tes sous et on va les mettre dans la boîte en fer blanc. C'est ce qu'a fait l'aubergiste. Et puis il est rentré chez lui. Alors la Louise, elle a pris la boîte en fer blanc, elle l'a bien refermée, et elle l'a glissée sous la pile de draps dans l'armoire de la chambre. Et elle a appelé Jean. Jean, on a passé une rude journée aujourd'hui, mais bon, il est tard, il y a une grosse journée qui nous attend demain. Maintenant, on va se mettre au lit. Il est temps de dormir. Alors le Jean et la Louise, ils sont préparés pour dormir. Ils sont glissés d'entre les draps. Et le Jean, pour pas qu'elle ait froid, il a tiré l'édredon sur l'épaule de la Louise. Et la Louise, elle a dit, ça, t'as bien fait, Jean. Ça, parce que ça aussi, ça me fait plaisir.
Belle histoire, merci.
Merci, Jean-Marc. Alors, on va le questionner, notre Jean-Marc.
Ben, moi, je suis là pour ça.
Alors d'abord, je voulais un petit peu déjà que tu nous dises un petit peu qui tu es.
Alors bon, alors qu'est-ce que je suis en tant que conteur?
Oui.
Ouais, j'ai rencontré le conte il y a 25-30 ans j'ai cru que c'était pas pour moi. J'ai cru que c'était un truc, on était fait pour ça automatiquement là ou alors on n'y arrivait pas. Alors j'ai gardé ça dans ma poche et il y a 30 ans que j'ai rencontré ça, m'en dites donc. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai vu une affiche. Et à cette époque-là, j'habitais dans le Var, dans le département du Var. J'ai vu une affiche pour une soirée conte. Et c'était animé par des amateurs. Et ils m'ont dit, mais viens quand tu veux, nous, on va t'aider à raconter. Et depuis, je raconte. Alors, quand je suis arrivé dans l'Allier, ma première obsession, si je peux dire, parce que c'était vraiment une obsession, j'ai fouillé partout pour trouver des conteurs amateurs. Dans le département de l'Allier, il y en a quelques-uns, mais je ne savais pas où ils étaient. Alors, j'ai dit, bon, ben, on va monter une assos. Ça s'appelle Sur le bout de la langue. Et maintenant, on est 5-6 à partager nos histoires. Quoi. C'est plutôt sympa. Plutôt sympa.
Tu as choisi le conte ou c'est le conte qui t'a choisi?
Oh, ça, j'en sais rien. Oh, ça, alors, je ne savais pas que j'étais venu à un cours de psycho. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est moi qui ai choisi quand même. Et quelque part, je pense que tous les conteurs font ça, peut-être les chanteurs aussi avec leurs chansons. Quand on trouve une histoire, après, on se demande si c'est elle qui ne nous a pas trouvé, parce que quelque part, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait envie de dire en ce moment. Mais si on le fait consciemment, je pense que ça ne marche pas, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça, c'est juste si on se laisse faire. Quoi.
Et alors, tu te dis, donc tu as monté une association, et ça t'a permis de connaître d'autres associations dans l'Allier. Il y a personnes et des professionnels. Comment...
Alors, des professionnels dans l'Allier, je n'en ai pas rencontré beaucoup, parce qu'il n'y en a pas énormément, en fait. Hein. Il y en a deux. Je vais être très, très embêté parce que je ne me souviens plus le nom de leur assos, mais que je connais. Il y en a une assos à Diou qui tourne et un monsieur qui est conteur sur Vichy que je n'ai jamais vu. Donc ça doit être une sorte.
Il y a les Spigao égarés.
Il y a les Spigao égarés que moi je rencontre et que je croise régulièrement. Oui. Mais l'idée pour nous, c'était de rencontrer des gens. Et alors, j'ai traîné sur Clermont. Je vous ai rencontré comme ça. Oui, merci.
Ça, c'est super.
Et de rencontrer des gens pour partager. Bon, en fait, pour dire, tiens, moi, je fais du compte, mais je n'ai pas envie de faire ça tout seul. Quoi. Voilà, tout simplement. Et si je peux me permettre, du coup, c'est comme ça que moi, j'ai fait cette histoire. Alors, je suis allé sur Rouen aussi. Parce que sur Rouen, il y a deux groupes de conteurs amateurs qui sont magnifiques, qui organisent tous les ans. Maintenant, ça va être un peu moins souvent, parce qu'ils se fatiguent. Mais qui organisent des très belles manifestations autour des Journées mondiales du conte, qui m'ont invité régulièrement quand on voulait. Avec eux, par exemple, j'ai compté dans un bus un jour. Vous avez le bus qui s'arrête à la station, vous montez dedans et vous dites aux gens, vous descendez dans combien de stations? Deux. Ben, j'ai une histoire pour deux stations, je vous la raconte. Bon, c'est pas simple, hein, mais c'est plutôt sympa en même temps. Hein, c'est plutôt sympa. Et dans cette idée-là, en fait, je me suis aperçu avec eux que les conteurs que je côtoyais, parce que pour cette journée mondiale du conte, on se rencontre, on mange ensemble, on se dit, toi tu racontes ici, toi tu racontes là, et puis on se retrouve tout seul. Et il y en a, on est avec 15 conteurs avec moi. Je ne les avais jamais entendus. Ça faisait 3 ans que je travaillais avec eux. Et là, j'ai dit quand même, c'est quand même dommage, quoi. C'est comme ça que j'ai fabriqué cette rencontre de conteurs qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Parce que pour moi, l'idée, c'était que les gens se rencontrent, se connaissent. Alors, je vais dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais se connaissent artistiquement, pas forcément humainement, mais au moins artistiquement. Et qu'ils puissent se dire... Tiens, maintenant, si on veut faire quelque chose, toi, je peux t'appeler parce que tu es un peu dans mon univers. Toi, je peux t'appeler parce que tu n'es pas du tout dans mon univers. Moi, je voulais que les gens se... Parce que la nature humaine, c'est de se rencontrer quand même, un tout petit peu.
Alors, bon, tu l'as évoqué, on pourrait en parler un peu plus. Donc, c'était une rencontre samedi dernier à Saint-Germain-des-Fossés.
Oui.
Une nuit du conte.
Oui.
Comment on peut l'appeler, voilà.
Oui.
Qui a commencé par des contes pour les petits.
Oui.
Et puis après, qui s'est terminé jusqu'à 3 heures du matin, je pense.
Presque 3 heures.
Ouais. Oui, presque 3 heures avec des contes pour plus grands.
Oui, oui.
Et c'est vrai, enfin, moi qui ai participé, c'était d'une qualité très belle, très bonne. Voilà. Ça aurait pu être des professionnels.
La première qualité de cette histoire-là, c'est qu'il y a des gens qui sont venus de Lyon, par exemple. Oui. Des gens que j'ai rencontrés à Lyon, à qui j'ai parlé, qui m'ont dit « Oh là là, rencontrer d'autres conteurs, quelle bonne idée !» Comme quoi, c'est dans l'air du temps. Hein. Moi, j'ai rien inventé, j'ai juste pris ce qui existait et puis on en a fait quelque chose, quoi. C'est tout, quoi. Et en fait, c'est devenu une nuit du conte à mon corps défendant parce que moi, je pensais au départ qu'on allait faire une soirée entre nous. Là, pour te raconter des histoires entre nous. Puis après, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais enfin, s'il y a un public, c'est mieux. » Ouais, t'as raison, c'est mieux. Après, je suis allé voir le conseil général. J'ai dit, vous pouvez nous aider à diffuser un peu la formation. Ah ouais. Comment c'est votre truc? C'est Nuit du Conte. Ah, j'ai dit, vous appelez ça une Nuit du Conte, vous? Vous avez raison, ça sert moi une Nuit du Conte. Et en fait, le bébé a grossi. Et je l'ai pas vu. C'est pas moi qui l'ai nourri. Hein, il s'est nourri tout seul. Hein, mais c'est intéressant quand même comme démarche. Parce qu'au départ, on se disait, on va juste se rencontrer. Et du coup, on crée un événement qui maintenant a des résonances.
Et on a envie qu'il perdure et qu'il ait lieu encore l'année prochaine.
Alors, ce sera tous les 2 ans.
D'accord.
On a dit, on fait toutes les années paires. D'abord, parce qu'une année sur deux, je suis comme les ours blancs, moi j'ai besoin de me reposer, ou brun plutôt, je vais au fond de ma grotte, je me repose. Et puis sinon, on va devenir producteur de spectacle, c'est pas le but du jeu, quoi. C'est pas le but du jeu.
Oui, oui. Et combien y avait-il de public ? Combien de personnes étaient là ?
Complètement effaré. 90. Alors là, j'ai compté les tickets avant de venir. 98 adultes payants, 26 enfants, une quinzaine de personnes invitées et quelques resquilleurs. Bon, on était 130, quoi. 130, 140, c'était pour une première. Tout le monde m'a dit, fais attention, hein. Fais attention, vous allez boire le bouillon. Non, non, on a été très embêtés, on ne savait pas où les loger, les gens.
Ouais, c'est magnifique. Ouais. Il y avait des gens debout qui ont dû attendre que certaines laissent leur place.
Oui. Ma plus grande satisfaction, et non pas personnelle, hein, vraiment pour l'idée de ce qu'on raconte, c'est des gens qui sont venus pour me faire plaisir, parce qu'ils travaillent avec moi ou qu'ils me rencontrent dans mon travail. Et depuis que je leur parle de ça... Que je leur dis non, mais c'est pas que pour les enfants, vous allez voir, ça va vous plaire. Et qui me font un oui de complaisance, de gentillesse, presque de politesse. Ils sont venus pour me faire plaisir, à 20h30. Et à 3h du matin, je leur dis vous pouvez nous aider à ranger les chaises? Ils m'ont dit ouais. Et quand c'est que tu refais ça? Voilà, donc ils sont restés. Comme quoi, ça a enlevé les préjugés aussi. Ça a enlevé les préjugés.
Et par rapport aux amateurs qui sont venus pour compter, je crois qu'aussi, peut-être tu me diras mieux, que je crois que c'est un plaisir de, parce que le compteur, il n'a peut-être pas toujours l'occasion de vraiment compter. Il prépare un petit peu, un petit peu seul. Et comme ça, compter, c'est important quoi, d'avoir, si on peut dire, un public. Enfin, voilà, je ne sais pas, comment tu l'as ressenti au niveau de cette soirée quoi.
Moi, je vais juste répéter les retours qu'on m'a faits. C'est... Des retours de satisfaction d'avoir rencontré d'autres conteurs amateurs, donc de se sentir pas isolé, mais de se sentir en même temps au sein d'une communauté. Du plaisir d'avoir rencontré des gens. Alors, il y a même des gens qui m'ont demandé de faire diffuser la liste des gens qui étaient là. Attendez, moi, j'ai pas vu ça. Il y a 3 semaines de boulot, ils ne se rendent pas compte, là. Moi, je vais me reposer maintenant. Mais bon, ça veut dire qu'il y avait vraiment une envie forte de rencontrer d'autres gens. Et pas forcément des professionnels, non pas qu'il y a un dénigrement, parce que les professionnels sont admirés par les amateurs. Soyons clairs là-dessus. On ne va pas au spectacle des professionnels parce qu'on n'y croit pas, on y va parce qu'on y croit. Mm-hmm. Mais on était tellement contents de se retrouver entre nous et de se dire « Mais c'est pas mal ce qu'on fait quand même. C'est pas mal, quoi. » Et puis, moi, j'ai au fond de moi un truc quand même qui me dit que... Et je trouve ça normal, hein, qu'il y a un certain nombre de lieux qui, pour tant de raisons budgétaires, d'organisation, de politique culturelle, sont dédiés aux professionnels. Et aux amateurs, on leur dit débrouillez-vous. Et bien, on s'est débrouillé. On s'est débrouillé, on a créé un événement, et j'espère que des professionnels vont venir. D'ailleurs, il y en avait un qui était là, qui était venu juste au départ pour, à lui aussi me faire plaisir, venir pour écouter, et qui, à 22h, m'a dit « C'est-à-dire que moi, je ne partirai pas si je ne peux pas satisfaire, si je ne raconte pas un peu, mais je vais être au même niveau que les amateurs, parce que je suis un conteur comme vous. » Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa.
Oui, et on n'est pas allé seulement pour te faire plaisir, pour se faire plaisir à nous. Hein.
Oui, mais les conteurs sont venus pour se faire plaisir, bien évidemment.
D'accord, mais tu dis le public est venu pour te faire plaisir à toi, c'est ça.
Alors, non, quelques non-amateurs de contes à l'époque... qui sont venus vraiment par politesse pour dire « Bon, ouais, c'est toi qui organises ça, Jean-Marc. Depuis le temps que tu nous invites à des spectacles, qu'on n'y va jamais. »
Que tu nous saoules.
Mais c'est un peu ça. Depuis le temps que tu nous saoules avec tes comptes, bon, il paraît que c'est bien. Bon. La comptable de mon travail m'a dit « Moi, je croyais que c'était pour les gamins. J'ai cru que je n'arriverais pas à partir. » J'étais aspiré et elle m'a dit « C'est vrai, elle a des soucis dans sa vie en ce moment. » Et comme beaucoup de gens, elle m'a dit « Je ne sais pas comment vous avez fait, je n'entendais plus rien que vos histoires. » Et moi, voilà, merci le compte, quoi. Merci le compte.
C'était gagné.
C'est gagné, oui, c'est gagné.
Est-ce que finalement, quand tu comptes en public, tu as le même objectif que quand tu comptes en petit comité ou ça change, en fait, pour atteindre les gens à qui tu comptes?
Oui, je crois que j'ai le même public. J'ai qu'une envie, c'est que vous allez m'écouter, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça l'histoire, en fait. C'est venez m'écouter, parce que ce que j'ai à dire, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est l'histoire. Mais non, j'ai le même désir de... Qui c'est qui m'a dit ça un jour? T'es comme un séducteur sur scène. Mais je crois que c'est ça un peu ça le conteur, hein. Il essaie de séduire avec ses histoires, quoi.
Ouais. Alors Jean-Marc, on va faire une première pause musicale. Pierre, est-ce que tu peux nous annoncer le premier morceau que Jean-Marc nous a amené?
Oui, bien sûr. Alors on va écouter un morceau de Claude Nougaro qui s'appelle « Le coq et la pendule ».
Thank you. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui seriner sa séguedille, pour imaginer son trépas, point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocorico. Un coq aimait une pendule.
Oui dire, Radio Campus 93.3.
Et après cette pause musicale, dis-moi Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous raconter un deuxième petit conte pour ce soir ?
Bon alors, on va y aller pour un deuxième petit conte, bien
Rien
sûr.
Rien que pour le plaisir.
Rien que pour le plaisir. Alors, je suis venu qu'avec des produits de pays, hein. Ça, non, moi j'ai les hein, d'accord.
Produit du terroir.
Non, mais c'est parce que c'est une histoire. Alors, j'arrive pas encore. Celle-là aussi, j'arrive pas à savoir si elle est vraie ou pas. En tout cas, ça se passe comme ça.
Peu importe.
Celle-là, c'est dans Vichy. Et alors, on dit que. Mais ça s'est passé il y a pas très très longtemps. Il y a peut-être 15, 20 ans, 25 ans, maximum 30 ans. Peut-être 40. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est un homme de Vichy qui voulait, lui, absolument aller au soleil. En vacances. Alors. Bien sûr, il est allé au soleil en vacances, au plus près, dans les déserts du Maroc, ou de l'Algérie, ou de la Tunisie. Enfin, vous savez, dans ces déserts-là qu'on aime bien se promener. Et alors, il est allé avec sa voiture, une vieille 4L. Il est descendu de la voiture et il a marché comme ça dans le désert. Il marchait, marchait, marchait sur la piste. Mais il n'y avait rien. Hein. Pas un arbre, pas un rocher, pas un oiseau. Et à un moment donné, il trébuche. Il se retourne, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Pas un arbre, pas une racine d'arbre pour faire trébucher. J'ai marché sur quoi ? Et là, il y a... Du désert est sortie une petite pointe de métal. Alors il a gratté autour, il a gratté, 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 sorti du sable, il a sorti une lampe à huile en cuivre, mais une vraie. Oh, mais c'est magnifique. Voilà peut-être le plus beau souvenir que je vais pouvoir ramener de mon voyage, de mon désert. Alors il l'a ramené chez lui, il l'a mis dans sa valise, il l'a ramené chez lui, et arrivé chez lui, à Vichy, la première chose qu'il a fait, c'est quoi ? C'est de vouloir la mettre sur une étagère en évidence. Bon, mais quand même, depuis le temps qu'elle était dans le sable, il a voulu la frotter. Alors il a frotté, vous imaginez, un génie est sorti. Et le génie lui dit, bon, dis donc, t'as droit à un vœu, mais choisis, hein. Ah, oh, dis donc, lui, un vœu. Il se demandait bien. Il savait qu'il n'était pas très malin. Comme quoi, il n'était pas aussi bête que ça. Mais quand on le sait, c'est qu'on est déjà à moitié gagné. Mmh. Et il dit, bah, je voudrais juste 10 fois plus intelligent. Ça me rendrait service. Mais c'est facile. 10 fois plus intelligent. Et l'homme de Vichy est devenu 10 fois plus intelligent. Alors, bien sûr, dans le quartier, on venait le voir pour un conseil. Il avait toujours la bonne réponse, la bonne intuition, le bon dénouement. Et un jour, on lui a posé une question. Là, il ne savait pas répondre. Il a dit, c'est pas grave, bougez pas. Il est allé chez lui. Il est allé jusque dans l'endroit où il y avait la lampe à huile. Il a sorti la lampe à huile de l'étagère. Et il a frotté avec son chiffon et le gêné est sorti. Il dit, qu'est-ce que tu veux ? Voyons, c'était bien ton histoire, mais... allez, rends-moi 100 fois plus intelligent, comme ça on n'en parle plus. 100 fois plus intelligent ? Mais c'est facile et... Et l'homme est devenu 100 fois plus intelligent. On dit même qu'il était conseiller auprès des gouvernants du coin. Mais ça, j'en suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'on lui posait une question, lui, il avait la réponse. Et chaque réponse apportait une nouvelle question. Et un jour, on lui a posé une question et il savait pas répondre. Il a dit, bougez pas, j'en ai pour 2 minutes. Il est rentré chez lui. Il a sorti de l'étagère la belle lampe à huile. Il l'a frotté, le gêné est sorti. Il a dit, cette fois, je voudrais être 1000 fois plus intelligent. Comme ça, on n'en parle plus. Tu es sûr ? Bah oui, je suis sûr. Non, parce que 1000 fois plus intelligent, il y a des conséquences. Ah, je vois ce que c'est, il dit au génie. Je vois ce que c'est. Toi, t'es un génie, mais t'es un génie moyen. T'es pas un génie qui est capable de faire tout. Et alors, donc, tu sais pas faire, t'essaies de me détourner ma question. Non, je sais faire, mais 1000 fois plus intelligent, il y a des conséquences. Et je te préviens, c'est irréversible. Écoute, moi, je veux être 1000 fois... Voilà. D'accord, 1000 fois plus intelligent. Et l'homme est devenu une femme.
Bravo.
Bon, j'ai fait un peu mon faillot, excusez-moi les filles.
Merci.
Thank you.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
Et on vient de régaler nos oreilles avec un morceau de jazz choisi par Jean-Marc, du nom de Armandos Rumba, pardon, interprété par un groupe donc, de musiciens du Var, donc oui. Ta région d'origine. Et alors, mais pourquoi avoir choisi un morceau de jazz ?
Alors, parce que je trouve, moi, que dans le jazz, la jazz, elle a quasiment... Il y a une démarche parallèle avec le conte, en fait. Les jazzman sont des gens qui prennent une mélodie et chacun l'interprète à sa manière. Sur une structure hein, qui est souvent une grille d'accords. Et quelquefois, il y a l'aïe mélodique. Mais ils ont une grille d'accord. Et à partir de là, ils improvisent. Ils improvisent sur une structure connue, reconnue, et contrôlée et respectée. Ce que fait le conteur. Il prend une histoire, il la déshabille, mais il garde la structure, il la raconte à sa manière, comme le musicien la joue à sa manière. Et moi, je suis passionné de jazz depuis toujours. Et j'ai découvert en faisant du conte que c'était la même démarche intellectuelle. En fait, je suis un obsessionnel, hein. Je fais tout pareil. Hein.
Ah oui, c'est bien intéressant. Et le rythme, bien sûr, comme, oui. Comme une histoire.
Oui, comme une histoire.
Bien. Et tu fais de la musique sur tes comptes ?
Non, je ne suis pas du tout musicien. Je suis mauvais. Je suis un excellent amateur de musique, mais je suis un très mauvais musicien.
Et est-ce que tu chantes ?
Dans ma salle de bain. Non, mais tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Parce que la salle de bain, ça résonne génialement bien. Ou dans les chapelles. Je rentre dans les chapelles pour chantonner tout seul. Hein. Il n'y a que le petit Jésus et moi pour entendre. Et c'est très bien.
C'est déjà pas mal. Et est-ce que, par contre, je crois que tu organises des stages autour de la voix.
Alors, en fait, ça fait un an et demi maintenant que j'ai rencontré une orthophoniste à Vichy, chanteuse de jazz, coach. Et qui est venu nous écouter une fois et qui a dit mais tu pourrais pas m'aider s'il te plaît parce que la voix que j'ai aujourd'hui j'en suis heureux et fier, elle me permet de m'identifier, mais jusqu'à l'âge 40 ans je l'aurais bien échangé contre la voix d'un autre quoi. J'ai pris des cours de chant partout tout le temps pour essayer d'améliorer ça. Il y a rien à en faire, il faut l'accepter hein. Et cette dame là ça fait un an qu'elle me fait travailler à peu près, puis qu'on s'est rencontrés, un an de gros travail sur la voix pour le conteur. Et c'était assez intéressant parce qu'elle est venue même à certains de nos prestations contées, un quart d'heure avant, juste pour faire travailler la voix.
Comme elle l'a fait à Saint-Germain-des-Fossés.
Alors voilà, à Saint-Germain-des-Fossés, elle est venue. Ouais. J'ai dit, écoute, t'es là ? Bah ouais, je te croyais en vacances. Bah écoute, puisque t'es là, tant pis, hein, tu vas bosser. et en fait, voilà, on est prêt quasiment, mi-septembre. Je ne veux pas voler la date parce qu'il ne nous reste pas grand-chose pour clarifier les choses. Mais mi-septembre, vraisemblablement le 13 septembre, on va faire un stage conte et voix. Parce que des stages de voix pour les conteurs, j'en ai déjà vu, j'en ai suivi. Ce n'est pas toujours inintéressant. Ce n'est pas toujours intéressant non plus. Parce que ce ne sont pas des gens qui s'intéressent à la voix pour le conte, mais à la voix pour la voix. Et en fait, là, on chante. Parce qu'elle me dit, le meilleur moyen de t'améliorer ta voix, c'est chanter. Alors, donc, tu chantes ce qui te plaît. Et à part ça, on retravaille. On retravaille l'articulation, on retravaille le souffle, on retravaille d'éviter les... Tu sais, comme on entend tout dans toutes les radios, par exemple. Hein, voilà. Et j'ai voulu, pareil, partager, en faire profiter les autres.
En fait, quand on compte, il faut avoir la même voix qu'on a quand on chante, c'est-à-dire la respiration ventrale.
Eh bien, j'en sais rien. J'y comprends rien. Mais c'est à Nicole Marquis. Nicole Marquis, qui sait, voilà, l'orthophoniste de Vichy. C'est à elle qu'il faudra demander ça le jour du stage.
D'accord.
Parce que moi, sincèrement, moi, je suis comme un enfant. Je me laisse guider par la main. Elle me dit, fais comme ça, je fais comme ça. Fais autrement. Mais je m'aperçois, par contre, que ça a des conséquences positives. Mais je suis incapable de vous dire pourquoi. Chacun son job, quoi. Moi, c'est de raconter des mentries, c'est tout.
Et est-ce que finalement, donc, est-ce que toutes les voix, elles peuvent compter ? Ou est-ce qu'il faudrait une voix particulière ? Enfin, travailler au moins pour pouvoir compter ?
C'est une bonne question, ça. Moi, je pense que toutes les voix peuvent compter.
Ah,
il
oui.
faut juste utiliser tous ces avantages et tous ces inconvénients en faire des avantages.
Oui, parce que ça fait notre identité, en fait.
Exactement. Mm. Celui qui a une voix qui ne porte pas, nous, c'est le cas dans notre association, il y a une fille qui a la voix qui ne porte pas du tout, eh ben, elle se sert de ça. Alors, elle va travailler sur la portée de sa voix, hein, bien sûr, mais elle se sert de ça comme un atout et non pas comme... comme
un désavantage.
Comme une peau de banane. Parce que c'est vraiment un atout, quoi. Et tout est atout. Moi, je suis sûr que tout est atout, à condition que considérer que tout est à nous. Allez, j'y suis allé de mon jeu de mots.
Jean-Marc, quels sont les lieux que tu préfères pour compter? Est-ce que tu préfères les lieux où tu fais des spectacles ou est-ce que tu préfères les veillées comptées plus intimistes, enfin...
Ou les balades.
Ouais.
Alors, les lieux où je fais des spectacles, les veillées comptées, c'est quasiment pareil. Parce que, comme je dis tout à l'heure, nous, on n'est pas des professionnels. On n'est pas là pour prendre les grands théâtres. On est là pour faire... Moi, je fais les veillées comptées, hein, ni plus ni moins. Mm. On a des petites jauges de 40 à 50 personnes. Moi, ce que j'aime bien, je trouve que c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Au-delà de ça, j'ai un peu l'impression de perdre mon public, parce que je suis un peu égocentrique, hein, comme beaucoup de gens qui sont sur scène, et j'ai envie que tout le monde m'écoute. Et ceux du fond, quand on est 80, j'ai l'impression que quand il regarde sa montre, c'est pas pour savoir si j'ai été bon pendant 10 minutes, c'est pour savoir s'il va partir. Ça me gêne. Alors que quand ils sont 40, c'est pas pareil. Non, je plaisante, mais tu vois, 40 personnes, et ils sont là, et on est en vraie communauté, communion, presque. J'aime les petites salles. Les balades comptées, c'est pas trop mon truc parce que je crois qu'il faut ne pas, faut avouer ce qu'on ne sait pas faire. Et ça, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas parce que je pense que c'est comme le reste, ça se travaille. Et il y a un temps pour tout. Pour l'instant, je travaille plutôt moi sur des. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est à raconter dans les soirées privées. Ça, je l'ai fait quelques fois. Les gens vous invitent comme conteur.
Oui.
Alors, il y a deux formules. Hein. Soit je te fais à manger pour tout le monde, soit chacun vit avec son truc. En général, on fait un apéro. Ça permet à tout le monde d'arriver en retard. Moi, je dis ça comme ça. Hein, même au compteur, d'ailleurs. Et puis, on se connaît. Et soit insidieusement, soit de manière délibérée, on s'installe, on raconte. Et je raconte pendant trois quarts d'heure, une heure dix, voilà. Et après, on mange ensemble. Et moi, tous les gens chez qui on fait ça, j'ai fait ça, m'ont dit, écoute, on va recommencer dès qu'on peut, avec des musiciens, avec des théâtreux, parce que c'est du spectacle à la maison. Chacun repart avec l'idée qu'ils ont passé la plus merveilleuse des soirées. Et je trouve que c'est là où on est vraiment... Parce que les gens me racontent des histoires après. Ah, dis-moi, ma grand-mère, elle disait... Ou moi, je connais cette histoire. Vas-y, raconte. Hein. Vas-y, hein, vas-y. Parce que ce que j'aime bien, moi, c'est partager. Alors, bien évidemment, à un moment donné, on partage une histoire quand on est sur scène, quand on est en spectacle, quand on se met en spectacle, comme disait ma grand-mère. Te mets pas en spectacle comme ça, les voisines te regardent. Bon, alors, mais là, elle me dit, vas-y, hein, vas-y, vas-y.
Donc, tu as commencé pour les voisines.
J'ai commencé pour les voisines. Attends, mais comme tout le monde, moi, je voulais qu'on me trouve beau. Mais voilà. Moi, c'est, tu vois, c'est les petits groupes quand on est 18-20 dans une maison, c'est énorme. Et en même temps, comme il y en a de partout, les gens sont sur les dessus du canapé, dessous, sur la petite table de salon. Il y a 20 personnes, on a l'impression qu'ils sont 2000. Parce que c'est plein. Il n'y a rien de pire qu'une salle de 60 personnes où on n'est que 20. Mmh. Il vaut mieux être à 20 dans une salle de 15, quoi. C'est plus agréable, quoi.
Est-ce qu'il y a des heures qui sont plus propices à une racontée dans la journée? S'il vaut mieux le matin, le midi?
Les heures où on est disponible. Mmh. Si vous êtes du matin, je vais vous raconter une histoire le matin. Si moi aussi, je suis du matin ce jour-là. Mais non, je pense qu'il faut juste être disponible. Et c'est pas mal. Vous savez, quand j'étais petit, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein, je ne suis pas si vieux que ça.
C'était hier.
Arrêtez de m'énerver. Non, mais ma grand-mère me disait, on va manger chez Tante Louise. Là. Tu vas mettre tes habits du dimanche. En fait, on se préparait à ça. Et moi, je pense que pour raconter... Comme pour venir écouter des histoires ou des chanteurs ou aller au théâtre ou aller au cinéma, moi, je ne peux pas y aller avec mes habits de travail. Je me rends disponible, je me change, je m'habille beau. Je me rends disponible parce que je vais écouter. Et je crois que c'est pareil hein, pour le...
C'est pareil.
Pareil. Hein. Pour le compteur, il faut qu'il soit dispo. Oui. Et il n'y a pas d'horaire, juste être disponible.
Juste être disponible. Et est-ce que tu as le trac?
Bah, qui c'est qui l'a pas? Enfin, moi, je les traque tant que le public n'est pas là. Vous savez comment sont les gens? 20h30 le spectacle, ils arrivent à 28. Pour les plus pressés. Et moi, à 25, je me dis, il n'y a personne ce soir. Il y a un mauvais film à la télé, il y a quelque chose. Je balise, là, j'ai un trac fou. Je dis, bah, ça y est, voilà, ce que tu as proposé, ça ne plaît pas aux gens. Tu n'as encore rien compris, tu es encore avec tes petites histoires. Et quand la salle est pleine, j'ai le trac parce que je dis, oh là là, ils ont tous payé pour venir. Mais je n'ai pas le droit de me planter maintenant, tu vois. Et après, quand on est dans l'histoire...
Ça coule.
Ben, je ne sais pas si j'ai le trac ou pas. En tout cas, l'histoire, elle n'a pas le trac. Mmh.
Pour revenir à la nuit du conte, la première nuit du conte que donc, tu as organisée, comment tu avais choisi le lieu?
Oh, des rencontres.
Moi, je n'y étais pas, mais il paraît que c'était un lieu magnifique.
Toujours des rencontres. toujours des rencontres. J'ai parlé autour de moi, j'ai dit voilà, moi je veux un lieu, je veux pas une salle blanche avec des néons, hein, voilà. Donc je veux un lieu qui a une âme, même si c'est difficile, même si on a. Et j'en ai parlé autour de moi. Et alors c'est Nicole Marquis, l'orthophoniste, là, qui me dit mais écoute, le prieuré de Saint-Germain, mais ouais, je connais, mais c'est inabordable ce truc-là. Non, c'est pas. Au contraire, ils sont ouverts et tout, je les connais un peu, va les voir. Et quand j'ai proposé l'idée, ils m'ont dit, c'est bizarre votre truc, mais nous, les trucs bizarres, ça nous plaît. Mais c'est que des rencontres. Moi, quand j'ai une idée en tête, je l'ai cette idée en tête depuis un an. Depuis mars 2013, j'en parle, j'en saoule tout le monde avec ça. Et c'est parce qu'on en parle que les informations nous reviennent. C'est pas parce qu'on reste dans sa petite maison à imaginer qu'on va modifier le monde. On va rien modifier du tout. On sert de ce qui existe et puis... on est un peu opportuniste en prenant les bonnes idées des autres. Mais après, il faut rendre à César ce qui est à César, quoi. Hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé ce lieu, mais c'est nous qui l'avons utilisé grâce à notre parole, quoi.
Voilà, Pierre, est-ce que tu as une autre question ?
Non, pas pour le moment, non.
Non, et ben, on va te remercier, Jean-Marc.
Oui, merci, Jean-Marc. C'est moi
qui vous remercie, d'être venu.
D'avoir plein de choses à dire.
Vous écoutez Oui Dire sur Radio Campus 93.3.
Ouh. Bon, alors, je vais vous parler des actualités. Alors, pour cette fin d'année, bien sûr, en approchant les jours chauds, les actualités autour de la littérature orale et des contes sont nombreuses. On ne pourra pas, d'ailleurs, toutes les dire, mais une dont on est content de parler, donc... C'est près de chez nous, le 14 juin, le COA, le collectif Oralité Auvergne, d'où émane l'émission Oui Dire, donc, a souhaité réunir les acteurs du conte de notre département, voire de la région, autour d'une problématique qui est les applications contemporaines de la littérature orale. Alors c'est Marco Barré, le directeur du Centre méditerranéen de littérature orale, qui va s'y coller. Donc c'est le samedi 14 juin de 9h à 17h à la cour des Trois Coquins, rue Agrippa d'Aubigné, donc pour une somme modique, on peut passer une bonne journée autour de la littérature orale. Donc, pour réserver, on peut téléphoner au quoi ? Au 06 86 05 02 82. Et je pense que ça va être un bon moment, une belle journée. Donc, peut-être que quelques précisions donc sur Marc Aubarré. Donc, c'est le directeur du CMLO, Centre méditerranéen de littérature orale. On en a déjà parlé tout à l'heure.
Oui.
C'est un centre qui a été créé il y a 20 ans à Alès, sur Alès, en juillet 1994, donc pour faire reconnaître la littérature orale et sa valeur dans le monde de l'écrit, où nous baignons. Donc, parce que la littérature orale, c'est un outil social bien mal connu, trop peu, comme tu disais. On pense trop souvent que c'est les contes, c'est pour les enfants. Et pourtant, on sait qu'ils sont utilisés dans des domaines aussi divers que la thérapie, par exemple.
Avec les soignants.
Voilà, l'animation.
Avec les animateurs.
La pédagogie.
Avec les enseignants.
Mais aussi le lien social et la prévention.
Avec les éducateurs.
La recherche.
Avec les universitaires.
La culture.
Avec les bibliothécaires.
L'art, bien sûr.
Avec les artistes.
Et on en oublie, merci Pierre. Mais on invite donc tous les curieux intéressés à venir le samedi 14 juin aux Trois Coquins de 9h à 17h. Et puisqu'on parle du CMLO, donc il fête cette année ses 20 ans. Et en guise de cadeau d'anniversaire, il souhaite regrouper les défenseurs de cette expression orale et souhaite qu'ils se retrouvent pour démontrer que l'art du conte est un art de l'intime et qui peut intéresser une quantité très importante de personnes. Donc, pour ceux qui sont libres, il y aura un rassemblement le samedi 12 juillet à 10h sur la place de la mairie à Alès. Ce sera le départ d'une marche urbaine qui conduira à un espace où la fête commencera et où chacun, il y aura une scène ouverte, des professionnels, des amateurs, tous les gens qui de près ou de loin ont travaillé ou œuvré pour le CMLO. Et donc, pour échanger des contes qui les ont le plus marqués durant les 20 dernières années. Donc, avis aux amateurs, avec un grain A, à ceux qui aiment le conte, amateurs et professionnels, à venir fêter les 20 ans du CMLO.
Et Marco Barré a rajouté qu'il y aurait beaucoup et de grandes surprises tout au long du parcours.
Ah, tu en sais peut-être un peu plus, toi qui fais un stage au CMLO.
Voilà.
Parle-nous-en d'ailleurs.
Non, tu as pratiquement tout dit, Fred, mais simplement, oui. C'était ce côté surprise et festif. Donc, ce qui est en train de se mettre en place, mais il n'a pas voulu trop nous dire et trop dévoiler non plus, parce qu'il a dit qu'il y avait des effets de surprise et de fête. Voilà.
Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais le samedi 12 juillet, c'est la Saint-Olivier, Arbre de la Paix.
Vous
prendrez comme vous voulez.
Bon.
Alors, bien sûr, pendant l'été, enfin, on en reparlera peut-être en juillet, mais il y a beaucoup de festivals aux quatre coins de la France. Hein. On peut citer, pour les plus connus, le festival du Clio et Poste à Vendôme, du 30 juin au 6 juillet. Il y aura aussi la Nuit du Conte de Toiras. Toiras, donc, est près d'Alès. Et cette Nuit du Conte fête ses 20 ans aussi. Et donc, j'y suis allée l'année dernière et l'année précédente. Et c'est intéressant, on prend un petit train qui nous amène dans la campagne et on revient à pied du lieu où on est parti et sur la route. Hein, Jean-Marc, oui, tu le sais aussi parce que tu y étais.
C'est intéressant, c'est magique.
Voilà, c'est magique. Donc, dans la nuit, on chemine et on écoute des histoires et tout jusqu'à arriver au petit matin et ça passe très bien. Et on voit le soleil se lever et ça, c'est magnifique.
Oui, voir le soleil se lever sur la dernière histoire et se rendre compte qu'on a veillé toute la nuit sans se rendre compte que la nuit passait. C'était
voilà,
génial.
Voilà, c'est vrai. Et donc, ça sera le 21 juillet à Toiras. Il y a aussi la fête du conte de Cucugnan. J'ai reçu ça le 22, 23 et 24 juillet avec plein de choses. C'est aussi le moment des stages. Il y aura aussi le festival de Vassivière qui propose, et tous ces festivals proposent au public des stages divers et variés avec des conteurs professionnels, voilà, et c'est très intéressant. Voilà, donc pour finir, tu as pas le stage, oui, tu nous en as parlé.
Oui,
donc,
oui, oui.
Il faut abandonner ses écrans, profiter du beau temps et ne pas hésiter à sortir pour régaler nos yeux et nos oreilles avec le spectacle vivant. Mais en attendant, Pierre, tu vas nous faire ta petite chronique.
C'est ça. Et ce mois-ci, donc, je me suis penché donc, sur les lieux du conte et particulièrement sur un parc d'attractions qui a attiré mon attention. Alors, c'est le parc de Efteling. Alors, il est situé aux Pays-Bas. Bon, d'accord, c'est un peu loin, certes, mais je pense que ça vaut le coup d'après ce que j'en ai vu. Donc, il a été d'abord créé en 1933. À la base, il était appelé le Bois des Fées. Bon, c'est particulièrement les contes de fées, traditionnels des Pays-Bas. Et de plus en plus, il a évolué en fait en ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un grand parc d'attractions à thème avec le thème de nos chers contes. Alors, c'est des attractions basées sur les contes traditionnels hollandais, comme je l'ai dit. Alors, c'est un grand parc géant en fait avec des manèges à tous les coins. C'est un jardin immense avec peuplé de farfadets, de toutes ces petites bêtes-là, avec des concerts cachés derrière les buissons, des acrobates, des jongleurs, tout ce que vous voulez. Des gens qui sont là pour vous emmener au pays des contes et qui y arrivent très bien. D'ailleurs, tout ce qui est à l'intérieur de ce parc est basé sur le conte, même les restaurants, les hôtels, et j'en passe. Donc, c'est le parc d'attractions Efteling qui est situé aux Pays-Bas.
D'accord.
C'est super, ça,
d'ailleurs. Ouais.
J'ai vu les photos, en plus, ça a l'air très sympa. Donc, pour plus d'informations, vous allez sur le site Efteling.
D'accord. Comment tu écris
Efteling.
Efteling, d'accord. Ling.
Ling, voilà.
Bien.
Merci Pierre. Et est-ce que, moi j'étais pas là à la dernière mission, est-ce qu'il y avait une devinette et...
Alors, je me jette la pierre, voilà, je l'avoue, j'ai fauté. La dernière émission était il y a 2 mois, vu que l'émission du mois dernier était retransmise. Et j'ai totalement oublié la dernière question. Donc, on me l'a fait venir en direct.
Bon. Alors, mais tu nous en donnes quand même une autre.
Je vais vous en donner une autre. Je suis vraiment désolé. S'il y a quelqu'un qui nous a écoutés et qui serait capable de me rappeler cette énigme, j'y répondrai avec plaisir. Mais ce soir, pour l'instant, je ne peux pas. Alors, au plaisir de vous avoir, d'avoir des nouvelles de vous. Et alors, je vais vous annoncer celle de ce soir. J'étais demain, mais je serai aussi hier. Qui suis-je ? Je répète, j'étais demain, mais je serai aussi hier. Qui suis-je ?
Alors, c'est demain comme deux pieds ?
Non, demain.
Demain. Demain. D'accord. Dans le futur. Vient, le futur. Alors, ben, moi, je vais aussi parler du futur. Maintenant, on aura la réponse dans un mois, puisqu'on fera la dernière donc en juillet. Et là, on invite tous les conteurs amateurs, professionnels, qui veulent venir raconter conte, slam. Venir nous rejoindre là, au studio Radio Campus. Je vais vous remercier tous. Alors, je vais commencer par notre invité, Jean-Marc. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette belle nuit du conte. Et puis, pour commencer, de lancer un appel pour dire peut-être que l'année où elle ne se passera pas dans l'Allier, il faut peut-être qu'on essaie de se regrouper, de se réunir. Et puis
dans le Puy-de-Dôme, oui.
Voilà, et d'en faire une dans le Puy-de-Dôme.
Très bonne idée.
Ça serait peut-être alors à creuser, à travailler. Et voilà, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. La dernière émission, j'en ai parlé. Merci Jean-Marc. Et puis on rappelle que donc il y a le 13 septembre une journée de formation.
La voie, mais je vous ferai passer l'information à tous les compteurs.
D'accord. Donc on pourra donner des téléphones.
Vous aurez tout ça. Se finaliser, mais vous aurez tout ça.
D'accord, voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Fred. Je sais qu'à la prochaine, tu ne seras pas là parce que tu seras sur les chemins.
Voilà.
Merci, petit Pierre. Peut-être tu seras là, toi, en juillet.
De rien.
Juillet.
Et moi, je serai là en juillet. Donc, et cette fois, je tâcherai de ne pas oublier l'énigme.
Oui.
C'est pas grave du tout.
Je la retrouverai.
Voilà, et merci Pierre Véal à la technique.
Mais de rien.
Peut-être qu'on te retrouvera aussi en juillet.
Normalement, oui. Il faudra qu'on cale les dates, mais oui, ça doit être bon.
Ça sera avec grand plaisir.
Voilà. Eh bien, merci Monique d'avoir remplacé au pied levé nos animatrices professionnelles Fred et Christine. Voilà, et que tu as fait avec talent. Merci Monique.
Voilà, je vous remercie tous et puis à bientôt et un petit coucou à Fred et à Christine.
Lire.
Oui, lire.
Oui, dire.
Oui, dire.
Oui, dire.
Oui, dire.
Sur Radio Campus 93.3. Oui, dire.